Oui, donc 19 février 64, une date inoubliable et pourtant un peu oubliée. Alors un peu oubliée parce que finalement c'est une date qui se trouve prise en étau, occultée par d'autres grandes dates de la mémoire ouvrière, que ce soit les grandes grèves de 55 ou celles qui vont suivre de 68, les manifestations de 68. Donc un peu oubliée et pourtant totalement inoubliable. Inoubliable parce que c'est certainement, c'est difficile d'être sûr, mais c'est certainement la plus grande manifestation qu'ait connue Nantes, en tous les cas, au XXe siècle. On y reviendra tout à l'heure, 70 000 personnes. Chiffre qui n'est pas remis en cause. Et inoubliable aussi parce que c'est un moment d'unanimité de tout un département qui se lève autour d'un slogan « La Loire-Atlantique veut vivre ». Et puis, inoubliable également, parce que c'est le point d'orgue d'un rapprochement ouvrier-paysan qui, finalement, date d'une dizaine d'années. Et c'est cet aspect-là que l'on va traiter ce soir, ce rapprochement ouvrier-paysan, dont cette manifestation est le point d'orgue. Alors, notre conférence va, en fait, se faire en deux parties. La première partie va traiter des rapports privilégiés des syndicalistes paysans et ouvriers, bon, surtout la CFTC, donc depuis en fait la guerre et puis surtout dans les années 50. Et puis la deuxième partie, eh bien, nous verrons un petit peu la période 62-63 avec un contexte économique qui va aboutir justement à cette grande manifestation du 19 février 64, qui sera un peu le point d'orgue, hein, et dont on va parler finalement maintenant dans une quarantaine de minutes au bout du compte. Voilà. Alors, pour cette conférence, on s'est beaucoup inspiré des travaux de René Bourigaud, hein, qui en 84 a écrit un mémoire de DEA qui s'intitulait « La fin du bloc agraire ». On s'appuie également beaucoup sur nos archives, notamment celles de la FDSEA, celles également de la CFTC, et puis également les archives de Paul Malnoé, hein, qui était donc le secrétaire de la Fédération Métaux FO de Saint-Nazaire. Et puis également, il y a ici, hein, aux archives départementales, un dossier spécifique sur la manifestation 19 février 64. Voilà.
Pour l'introduction.
Brillante introduction, merci. Merci Yannick.
Je t'en prie.
Donc il me revient de vous faire un peu un balayage sur la période libération jusqu'aux années, début des années 60. En octobre 1944, par ordonnance, le gouvernement provisoire dissout la corporation paysanne créée par le gouvernement de Vichy, dans laquelle l'essentiel des militants paysans se sont retrouvés pour défendre l'identité paysanne et le métier. Alors évidemment, les discours du maréchal sur la famille, sur la petite propriété agricole que l'on se doit de défendre, sur le travail grâce auquel l'homme se réalise, sur la patrie pour laquelle le sang fut versé à Verdun, tous ces discours ne pouvaient que leur plaire. Pour eux, et certains ont connu la Grande Guerre, Pétain était et demeure le sauveur d'une France assaillie, hier, vaincue aujourd'hui. Pétain aimait les paysans, Pétain aimait Dieu, l'ordre et cette terre qui ne manque pas. Il était l'homme providentiel dont la France vaincue avait besoin pour sortir de l'ornière dans laquelle l'avait plongé le Front populaire et les financiers cosmopolites. La collaboration avec les Boches, les réquisitions affameuses n'étaient que la conséquence fâcheuse de la défaite militaire. À la libération, le syndicalisme agricole doit donc se reconstruire de fond en comble et il doit le faire dans les conditions du moment. Le ministre de l'Agriculture nommé par De Gaulle est un socialiste qui s'appelle François Tanguy Prigent. C'est un paysan breton qui a délaissé la charrue pour endosser une carrière politique dans les années 30. Si tout le monde s'accorde pour maintenir l'unité paysanne, la question qui se pose est celle du leadership. Se reconstruire, oui, mais avec qui? Peut-on laisser en poste ceux-là même qui, hier, à la tête des structures départementales de la corporation paysanne, saluait la révolution nationale? Eh bien oui, et puis non aussi. Si certains parmi les plus engagés dans la collaboration avec Vichy sont ainsi épurés, la plupart ne sont pas inquiétés, et le Mayennais Eugène Forger est de ceux-là. En 1941, dans le premier bulletin de l'Union des syndicats agricoles, Eugène Forger se réjouissait de voir le bon maréchal Pétain s'en prendre aux spéculateurs, aux financiers d'Israël et aux commerçants marrons, autrement dit, au capitalisme cosmopolite et mercantile. « Leur temps est passé, écrit-il, celui des paysans est arrivé. » En mars 1946, au congrès de fondation de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, il se pose encore et toujours en défenseur des paysans malmenés par les idéologues qui entendent transformer la société paysanne en une société industrielle. Eugène Forget est un homme de droite, certes, mais il l'est bien moins que beaucoup. Ce militant du MRP, le Mouvement Républicain Populaire, de centre-droit, entend incarner la famille paysanne, la famille plurielle, avec les exploitants, les salariés agricoles, les techniciens, les coopératives, etc. Une famille qui doit se rassembler et non se déchirer et régler ses comptes en ces temps de reconstruction. N'a-t-il pas pour amis, dit-il, des paysans socialistes ? Ne plaide-t-il pas pour que les rouges aient le droit de parole dans les organisations agricoles ? Ne défend-il pas l'indépendance syndicale à l'égard des partis ? Et pourtant, avec ce discours-là, il faudra plusieurs tours de scrutin avant que les délégués paysans de France ne s'entendent pour lui confier le soin de sauver la paysannerie. Voilà sur le plan national. Venons-en au plan local. Lorsque la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, voit le jour au mois de juillet 1945, elle confie son sort à des personnalités qui ont, elles aussi, joué un rôle central dans la corporation paysanne. L'épuration n'a pas touché le syndicalisme paysan local. Alors, qui reprend les rênes ? Eh bien, il y a le président Albert Boucher, agriculteur à Montbert, commune dans laquelle il est impliqué politiquement, puisqu'il est conseiller municipal depuis 1924. Et il sera également sénateur indépendant et paysan entre 1959 et 1965. Un sénateur extrêmement discret, si l'on en croit René Bourigaud, puisqu'il ne prendra jamais la parole en séance plénière. À ses côtés, on trouve le secrétaire général Louis Thébault, un paysan d'Éric dont beaucoup louent la modération et l'âme rassembleuse, ce qui n'est pas du tout le cas du troisième larron, le très droitier Henri Robichon, paysan bougnésien, promoteur des coopératives agricoles, maréchaliste de la première heure, défenseur de l'empire colonial, tribun réputé, qui fera une carrière politique comme maire de Bougnay. Il disait jamais la mairie, il disait la paroisse de Bougnay, hein, à noter, conseiller général dans les années 50 jusqu'aux années 60 et député indépendant et paysan en 1958. Ils sont tous trois catholiques, conservateurs et entendent préserver le syndicalisme paysan des bouleversements politiques et sociaux de la libération. De toute façon, rares sont les paysans qui, tel Auguste Viau de Vieille-Vigne, cette fois-ci on y vient, défenseurs obstinés des fermiers métayers, votent communiste sans pour autant renier Dieu. Hein. Pour ces syndicalistes paysans, se rapprocher des organisations ouvrières n'est même pas envisageable. Mais une décennie plus tard, une nouvelle génération arrive aux affaires. Elle est pour l'essentiel issue de la jeunesse agricole catholique, la JAC, formidable outil de formation de cadres et d'animateurs syndicaux acquis à la modernité. C'est dans ce creuset que l'on apprend à débattre, à prendre la parole, à s'organiser, à s'affirmer, à convaincre, mais aussi à critiquer la vieille génération. C'est dans ce creuset que l'on apprend à être fier d'être un paysan moderne et non ce plouc aux sabots crottés, incarnation d'une France conservatrice, passéiste, avec ses petites exploitations vivotant en attendant la mort ou le dépeçage au moment de la transmission du foncier. La JAC est à la fois un outil de promotion professionnelle et un outil d'affirmation politique et syndicale pour une jeune génération d'agriculteurs avides de changement. Cette nouvelle génération n'est pas de gauche, mais elle n'est déjà plus très à droite. Raphaël Rialan, par exemple, qui prend la suite d'Albert Boucher à la tête de la FDSEA, est un militant de la démocratie chrétienne, ce qu'est encore Bernard Lambert, le turbulent tribun de Théier, député apparenté MRP entre 1958 et 1962. Voilà. Alors, un des militants aussi, Médard Lebeau, qui sera vraiment le bras droit de Bernard Lambert pendant toutes ces années et jusqu'au début des années 70, jouera un rôle fondamental aussi dans cette mutation. L'unité ouvrier-paysan va se concrétiser au début des années 60 et elle ne doit rien à la volonté des masses ouvrières et paysannes. C'est une affaire d'état-major et de personnalité avec d'un côté la direction de la FDSEA et un militant clé dont je viens d'évoquer le nom, Médard Lebeau, et de l'autre, la direction de la CFTC, dont le secrétaire départemental est un dénommé Gilbert Declerc. Ces deux hommes, ces deux organisations partagent plusieurs choses. L'humanisme chrétien, un lien intime avec les organisations de jeunesse catholique, la JOC et la JAC, le refus du conservatisme syndical et du corporatisme, la volonté de faire évoluer les mentalités. Et ce dernier point n'est pas le plus facile à réaliser. En effet, pour l'ouvrier lambda, le paysan est un profiteur de guerre. Il n'a pas souffert de la faim comme dans les villes, il s'est rempli les poches avec le marché noir, il aimait Pétain quand d'autres risquaient leur vie dans la résistance. Pour le paysan lambda, l'ouvrier, celui des villes, hein, pas l'ouvrier rural qu'il rencontre au bistrot ou à l'église, eh bien l'ouvrier des villes, c'est un rouge qui ne va pas à l'église et qui déteste la propriété privée. Alors, comment fédérer deux groupes sociaux aux intérêts antagonistes, puisque les syndicats ouvriers luttent contre la hausse des prix pour défendre le pouvoir d'achat, alors que les syndicats agricoles défendent au contraire une revalorisation des prix agricoles. Mais cependant, une chose est de nature à faciliter le rapprochement. Avec la mécanisation, l'agriculture n'a plus besoin d'autant de bras. Le destin des enfants d'agriculteurs s'éloigne donc des champs, beaucoup gagnent la ville où ils côtoient, le syndicalisme ouvrier, parfois même, se syndique à la CFTC. Les premiers échanges se tiennent au printemps 1957. Et en janvier 1958, des représentants paysans sont invités à assister au congrès de l'Union des métaux de Nantes de la CFTC. À l'automne suivant, une opération de vente directe de pommes de terre et de viande est organisée dans le quartier nantais des Batignolles, là où vit Gilbert Declerc. Le but, eh bien, montrer tout simplement que les paysans ne sont pas responsables de la hausse des prix. En avril 59, de nouveau, la FDSEA assiste au congrès des métaux CFTC, et cette fois-ci, le secrétaire, Raphaël Rialan, est invité à prendre la parole. La FDSEA sera également présente lors du 28e congrès de l'Union départementale CFTC, tenu en novembre 59. Même si la CFTC demeure l'organisation avec laquelle la FDSEA a le plus d'affinité, Racine chrétienne oblige, la FDSEA accepte assez vite d'entrer en relation avec les frères ennemis de la CGT. Si unité d'action il doit y avoir, elle ne pourra se faire sans eux. Plutôt sans elle, pardonnez-moi. En 1961, la FDSEA propose aux syndicalistes ouvriers de visiter les fermes, initiative très pédagogique pour comprendre les problèmes paysans à l'heure de la modernisation agricole et de la future politique agricole commune. Problèmes qui ne se réduisent pas à la question des prix et des revenus, mais posent aussi la question de l'accès aux fonciers et de l'opportunité d'un nouveau remembrement. 1961 est également l'année de la première manifestation mêlant ouvriers et paysans en France. Manifestation historique donc, mais dont le souvenir, là encore, s'est curieusement perdu. Le 20 juin 1961, derrière deux tracteurs, des milliers d'ouvriers et de paysans défilent dans Saint-Nazaire, dans un calme absolu, faisant montre d'une discipline exemplaire, nous dit la presse. Combien sont-ils ? La plupart des journaux évoquent 4000 manifestants, dont 1000 paysans. Seule l'Humanité parle de 10 000 personnes. Cette manifestation s'inscrit dans un contexte très particulier. Les campagnes, notamment de l'Ouest, sont en ébullition. Dans un livre intitulé « Insurrection paysanne », l'historien Edouard Lynch consacre quelques pages à cette flambée de violence de mai-juin 61. Les paysans ne se contentent pas de manifester. Ils établissent des barrages. Ils perturbent les élections cantonales en brûlant des urnes. Ils s'emparent le 8 juin, avant le lever du jour, de la sous-préfecture de Morlaix. C'est pas rien. Le pouvoir, évidemment, réplique. Emprisonne des paysans, dont deux syndicalistes importants, qui s'appellent Marcel Léon et Alexis Gourvenec. Il envoie également des troupes ramener l'ordre, mais sans parvenir totalement à mettre un coup d'arrêt à cette jacquerie. Dans le Grand Ouest, on ne compte plus les barrages de routes, les blocages de villes, les manifestations et les sabotages de lignes téléphoniques. La manifestation nazérienne se déroule deux jours avant le procès de Marcel Léon et Alexis Gourvenec, procès qui se terminera d'ailleurs par l'acquittement des deux syndicalistes et qui fera dire à Marcel Léon ces mots lourds de sens si on les prend au pied de la lettre « Notre puissance syndicale a prouvé qu'elle pouvait faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand ». Moins important, puisqu'on a souvent dit que les organisations paysannes avaient, entre guillemets, beaucoup plus de liberté d'action et de désordre, entre guillemets, que les syndicalistes ouvriers. La presse locale et nationale relate l'événement en soulignant son caractère historique. Pour Ouest-France, Nous assistons là à une première dans l'histoire du syndicalisme français. Une telle manifestation et son précédent, écrit Les Échos. Le rassemblement de Saint-Nazaire marquera une date dans l'évolution des rapports entre les syndicats ouvriers et paysans, ajoute Ouest-Éclair. Quant à l'Humanité, le journal communiste parle d'événements de très grande portée, de journées mémorables au cours de laquelle ouvriers et paysans ont pris conscience de leur communauté d'intérêt et l'Humanité de souligner que dans le cortège, la Marseillaise et l'Internationale s'entonnaient alternativement. La plupart des journaux rendent compte du contenu des prises de parole syndicales. Alors, les syndicats ouvriers insistent sur le malaise social, l'inflation qui grève les budgets et profite aux spéculateurs. Ils pointent ce progrès qui chasse de l'agriculture nombre de paysans et la sous-industrialisation de l'Ouest qui oblige la jeunesse à s'expatrier. De son côté, évidemment, la FDSEA appelle à libérer les paysans incarcérés et pose aussi bien la question du revenu paysan que de l'accès au foncier pour ceux qui désirent s'installer ou s'agrandir. Deux journaux vont au-delà de la seule relation des faits. Pour La Croix, il n'y a pas lieu d'être surpris de l'entente réalisée entre métallurgistes et agriculteurs à Saint-Nazaire, car beaucoup d'ouvriers sont d'origine paysanne et, je cite, « entre CFTC et jeunes syndicalistes ruraux, l'entente est très étroite ». D'ailleurs, les syndicats CFTC semblent avoir été les initiateurs de l'action commune. Le journaliste des Échos, lui, se fait historien. Il rappelle que l'indifférence entre ouvriers et paysans masquait mal souvent l'hostilité, évoquant aussi bien l'ancien député Henri Dorgère, fondateur dans l'entre-deux-guerres de Comité de défense paysanne d'inspiration fasciste, que l'influence du socialisme dans les campagnes du Sud-Ouest. Les paysans ne sont donc pas condamnés à être des Versaillais, donc des contre-révolutionnaires. Quant à l'unité d'action, le journaliste souligne son caractère fragile, car il sait que les paysans et au-delà les ruraux sont visés par la propagande d'extrême droite. Manifestation historique donc, puisqu'il n'y a qu'à Saint-Nazaire que les paysans sont allés chercher et ont obtenu le soutien des syndicats ouvriers. Si l'on en croit la presse, locale comme nationale, cette unité réalisée tient à la fois donc à la nature du bassin nazérien, les fameuses racines paysannes des ouvriers locaux, et au lien étroit entretenu entre la FDSEA et la CFTC, qui partageraient une même matrice, le christianisme social, via la JAC et la JOC. Mais un long courrier du 21 juin 1961, conservé par le Centre d'Histoire du Travail, nous permet d'en savoir plus. L'auteur, c'est Paul Malnoé, secrétaire des métaux Force ouvrière, et le destinataire, Georges Delamarre, secrétaire de la Fédération nationale des métaux FO. Ce courrier de 4 pages relate de façon précise les conditions dans lesquelles cette manifestation de solidarité ouvrier-paysan a vu le jour, et cela mérite qu'on s'y arrête. Mardi 13 juin, Malnoé reçoit à son domicile 2 représentants de la FDSEA lui proposant une action commune. Malnoé n'y est pas opposé et il leur demande d'attendre 24 heures pour avoir une réponse définitive car il veut consulter les militants. Ce qu'il fait le lendemain au petit matin. Résultat, je cite, « les réactions furent plutôt mitigées mais sans condamnation formelle d'une action commune ». À midi, Malnoé a les retours de la base sondés par les militants. Je cite, « les ouvriers n'étaient pas chauds pour faire alliance avec les paysans. Les ressentiments contre ceux-ci étaient nombreux. Souvenir de l'occupation allemande, les contacts quand ils étaient réfugiés, les prix des produits agricoles aussi élevés à la ferme que chez les détaillants, etc. etc. » Tout cela ne va donc pas dans le sens d'une prise de position favorable. Bref, pour Force ouvrière, il n'est pas opportun d'aller au-delà d'une simple déclaration commune. Le jeudi 15, sans Malnoé parti à Paris, une réunion intersyndicale se tient à la demande de la CFTC. Celle-ci défend l'idée d'une manifestation commune, au contraire de la CGT, qui propose de s'en tenir à un meeting seulement ouvrier sur le terre-plein de Pinouette, tandis que les paysans, eux, se réuniraient en ville à l'écart. La CGT n'exclut cependant pas l'idée d'une délégation commune à la sous-préfecture. Le soir, oui, c'est un peu long, une réunion avec la FDSEA se tient. La CFTC maintient sa position. Surprise, dit Malnoé, la CGT s'est ralliée à elle, ce qui lui fait dire que le Parti communiste a dû mettre la pression pour la faire changer d'avis. Il en est sûr, puisque le leader de la CGT locale, qui s'appelle Jules Busson, lui avait dit que tant à l'Union départementale, donc à Nantes, qu'à Saint-Nazaire, les dirigeants de la CGT étaient opposés à une manifestation commune. Le vendredi 16 juin, une nouvelle réunion intersyndicale se tient. Et c'est elle qui doit décider enfin si oui ou non une manifestation commune aura lieu. Du côté de FO, la majorité des syndicats est opposée à cette manifestation, mais elle dit qu'elle s'alignera sur la position du principal syndicat de l'organisation, autrement dit, sur la position des métaux. Ah. Manoé indique, en passant d'ailleurs, que ce sont les cols blancs, hein, les cadres et employés, qui seraient les plus opposés à l'action commune et non pas les ouvriers. Et là, il note que la CFTC, très excitée à l'idée de manifester avec les paysans, l'est devenue beaucoup moins en cette fin de semaine. Alors, peut-être a-t-elle également sondé ses troupes. La FDSEA, de son côté, ne fait rien pour assurer ses partenaires, soulignant que les paysans sont très remontés et que des débordements sont à craindre. La CGT, elle est optimiste. Elle propose un meeting commun et pour éviter les incidents, elle propose de supprimer le défilé jusqu'à la sous-préfecture. Pour Force ouvrière, c'est en fait Alexandre Hébert qui va prendre la parole. Autant vous le dire, Alexandre Hébert et Paul Malnoé ne s'apprécient pas, et c'est peu de le dire. Ce sont tous deux des tribuns qui se réclament de Fernand Pelloutier, du syndicalisme révolutionnaire, mais le premier se dit anarchiste et le second est socialiste. Craignant d'être bloqué à Paris, Malnoé a demandé en fait à son meilleur ennemi de descendre à Saint-Nazaire au cas où. Et ce qui devait arriver, arriva. Malnoé écrit qu'Hébert, comme toujours dans les grandes occasions, il sait faire valoir son tempérament révolutionnaire. Il faut lire le second degré, là. Faisant fi des conseils de modération qu'il lui donne, Hébert appuie sur le champignon, ce qui fait que, paradoxalement, écrit Malnoé, FO apparaît comme l'organisation la plus farouchement favorable à une action commune. Alors, ce courrier est précieux parce qu'il atteste que l'élan solidaire des ouvriers en direction des paysans tient avant tout au volontarisme de certains leaders syndicaux et pas forcément d'ailleurs de ceux que l'on attendait. C'est le cas d'Alexandre Hébert, anarchiste, anticlérical, qui fait le forcing pour parvenir à une manifestation commune, alors que la CFTC, qui poussait à l'action, semble, selon Malnoé, s'être mise quelque peu en retrait, effrayée à l'idée que les débordements éventuels fassent du tort au mouvement républicain populaire, parti avec lequel elle a des liens importants. Ce courrier témoigne également que, pour une fraction non négligeable des métallo-nazériens, le paysan demeure associé au pétainisme réactionnaire, à la cupidité et au marché noir. Les métallos ne sont donc pas portés naturellement à rechercher l'unité d'action avec les travailleurs des champs, quand bien même leur racine serait paysanne. Le 16 juin, Paul Malnoé l'a d'ailleurs expliqué clairement, il y a un décalage entre la pensée des militants et les conceptions plus terre-à-terre de ce que nous appelons plus communément la base. Ce qui est vrai chez les ouvriers l'est à mon sens autant côté paysan. Si l'on parcourt le paysan nantais de l'année 1961, on est surpris du peu de place que prend cette manifestation historique. Dans le numéro 377 de juin 61, le journal consacre quelques pages aux actions menées par le syndicalisme paysan, mais la manifestation historique n'y apparaît que sous la forme d'une photo légendée et la promesse d'un article futur qui ne verra jamais le jour. Dans le numéro 386 de décembre 61, on trouve un 4 pages intitulé « Bilan de l'action syndicale 61 ». La manifestation est mentionnée, sans plus. Dans le numéro suivant, publié le 30 décembre 61, et qui en fait est consacré à la suite du bilan de l'action syndicale de l'année, eh bien, on mentionne à nouveau la manifestation, le journal propose une photo avec pour titre « Ouvriers et paysans manifestent ensemble à Saint-Nazaire » et un simple commentaire. Ce rassemblement s'est déroulé dans le calme. Le silence est parfois plus imposant et redoutable que l'excitation. Voilà. Lors du congrès de la FDSEA de février 62, auquel les syndicats ouvriers ne semblent pas avoir été invités, si j'en crois les archives du centre, les relations ouvriers et paysans ne sont pas à l'ordre du jour. Tout juste note-t-on que l'Aveyronnais Marcel Bruel, secrétaire général de la FNSEA et invité par la Fédération départementale à intervenir, s'est félicité, nous dit la presse, que le syndicalisme de Loire-Atlantique ait ouvert large ses fenêtres et entamé un dialogue avec les autres catégories sociales. On ne parle pas des ouvriers, mais les autres catégories sociales. Alors, comment expliquer que la direction de la FDSEA fasse aussi peu la promotion de sa politique d'unité d'action ? Aurait-elle peur de s'aliéner une partie du monde paysan, cette partie plus conservatrice et corporatiste, centrée sur la famille paysanne dont il faudrait défendre l'unité coûte que coûte. C'est une option et c'est un peu mon opinion. Pourtant, cette unité, eh bien, le syndicalisme de l'Euratlantique n'hésite plus à malmener. Nous en voulons pour preuve une lutte qui a marqué les esprits quelques mois après, hein, à l'hiver 61-62. Elle oppose un propriétaire terrien qui s'appelle Joseph Marion de Procé à son fermier qui s'appelle Joseph Violin. Depuis quelque temps, Joseph Marion de Procé, qui est ingénieur agronome de formation, pousse Violin à se moderniser. Mais voilà, à 67 ans et après 30 ans passés sur l'exploitation sise à Plessé, le fermier n'entend pas se lancer dans une telle aventure. Le propriétaire engage alors une procédure d'expulsion pour mauvaise exploitation et il obtient gain de cause devant le tribunal de Saint-Nazaire en décembre 1960. Violin est donc prié de quitter les lieux au plus tard le 29 septembre 1961 et de s'acquitter des réparations locatives qui seront calculées par un expert après l'état des lieux. Considérant que cette décision est d'un point de vue humain un acte odieux qui, sous le couvert de la légalité, ruine un exploitant, fin de citation, 400 paysans décident de prendre les 11 tonnes de foin présents sur l'exploitation afin que le propriétaire ne s'en empare pas. Ils les prennent, ils se les partagent, ils en paient le prix aux fermiers évincés et ils se fendent d'un tract qu'ils distribuent à la sortie de la messe le 31 décembre. Se sentant diffamé, Joseph Marion de Procé porte plainte contre les dirigeants syndicaux et donc contre le paysan nantais qui a reproduit le contenu du tract en question. 4000 paysans se rassemblent le jour du procès, mais la justice, là encore, donne raison aux propriétaires. C'est donc, on pourrait dire, une défaite pour les équipes syndicales départementales de la FDSEA. Mais en fait, l'essentiel est ailleurs. Les syndicalistes demandent alors à la FDSEA d'exclure Marion de Procé de ses rangs. Car l'homme qui vient d'expulser un paysan, est également le président de la section des propriétaires bailleurs de la FDSEA. Ils seront entendus. Marion de Procé ne sera pas reconduit dans ses fonctions. Et en fait, cette affaire est révélatrice de l'évolution du monde paysan. La défense de la famille paysanne est une arme utilisée par les notables pour neutraliser la contestation sociale. Cette affaire confirme la perte d'influence des propriétaires, notamment des grands et notamment de ceux de familles à particules, dans la conduite du syndicalisme agricole de la Loire-Atlantique. La déférence à l'égard des élites rurales traditionnelles n'est donc plus de saison.
Oui, donc ce rapprochement entre syndicats, ouvriers et paysans va s'approfondir dans les années 62-63 dans une opposition commune à la politique économique du gaullisme. Alors, ouvriers comme les paysans de Loire-Atlantique et plus globalement de l'Ouest breton se considèrent victimes de la modernisation capitaliste en marche. La région a été sacrifiée et la prospérité des Trente Glorieuses, finalement, elle n'est pas pour tout le monde et pas pour tout le pays. C'est en tous les cas le sentiment ressenti aussi bien par les ouvriers et les paysans. Et les deux groupes sociaux, ou en tous les cas leurs responsables syndicaux, sont conscients de cette communauté d'intérêts, de la nécessité d'une lutte commune et de l'affirmation de leur solidarité pour infléchir la politique gouvernementale. Alors, communauté d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la communauté d'intérêt, c'est d'abord, c'est deux choses. C'est d'abord le combat pour l'emploi. Alors, on a de très nombreux tracts de la FDSEA. Vous avez un ici qui a été édité en février 64, qui paraît dans le Paysan Nantais, qui est l'organe de la FDSEA. De nombreux tracts montrent cet aspect, le problème de l'exode rural. C'est ce qui est dit ici avec cette phrase « Le dépeuplement des campagnes s'accélère de façon catastrophique ». Alors l'exode rural, il n'est pas qu'en Loire-Atlantique, bien sûr, mais il y est très marqué. Et dans le texte, il est bien précisé que depuis 1956, l'agriculture de Loire-Atlantique a perdu annuellement plus de 4000 personnes actives, soit au total plus du quart de la population active agricole du département. Il faut bien voir qu'on est dans un département avec de petites et moyennes exploitations et avec un grand nombre de paysans qui ne peuvent pas moderniser sur des parcelles trop petites où la mécanisation est difficile, voire impossible. Donc il y a ce problème fondamental de l'exode rural et un exode rural qui atteint essentiellement les jeunes. Là encore, ce sont les jeunes qui partent parce qu'ils ne voit pas de perspective d'avenir pour reprendre l'exploitation familiale. Et d'ailleurs, là encore, dans le texte, il est précisé, en Loire-Atlantique, plus de la moitié des chefs d'exploitation sont âgés de plus de 50 ans. Alors ces jeunes, ils sont peu diplômés, évidemment, ils ont souvent le certif. Et donc, la seule solution, c'est d'aller chercher du travail dans les entreprises environnantes. Faut-il encore
qu'il y en ait.
Voilà, merci. Qu'il y en ait. Or, au début des années 60, c'est bien le problème. On a déjà une crise de l'industrie ligérienne. Alors cette crise, elle va devenir surtout très forte dans la construction navale. C'est la fin des paquebots transatlantiques, début des pétroliers. Alors les pétroliers, il y a une grosse concurrence japonaise. Et le carnet de commandes des chantiers devient de plus en plus réduit. Bien. Il y a donc cet aspect-là. Et puis, on est à l'époque de la décentralisation, l'aménagement du territoire. Vous en connaissez le ministre, Olivier Guichard, évidemment. Et aménagement du territoire, décentralisation, ok, mais finalement, peu d'entreprises s'installent en Loire-Atlantique. Alors, on a fait miroiter à un moment donné le fait que la régie Renault pourrait s'installer. Elle s'installera le long de la Seine. Et on avait aussi fait miroiter l'implantation d'un grand complexe sidérurgique qui amènerait évidemment des milliers d'emplois. Vous savez où il va s'installer ? À Fos-sur-Mer, à Marseille. Eh oui, c'est là qu'il va s'installer. Le poids des patrons marseillais était plus fort quand même. Bon. Et donc, finalement, peu d'entreprises s'installent. Alors, comment expliquer cette frilosité des patrons nationaux, des patrons français ? Alors, certains invoquent le climat social qui est peu propice à l'installation d'entreprises. Alors, tout le monde se souvient des grandes grèves de 55, ça fait un peu peur aux patrons. Il y en a qui disent qu'un patron qui s'installe en Loire-Atlantique, c'est un peu comme aller au front, quoi. Donc, il y a ça. Il y a aussi le malthusianisme des patrons locaux. Le malthusianisme des patrons locaux qui ont la crainte quand même de devoir aligner les salaires sur les salaires parisiens. Voilà, s'il y a d'autres entreprises qui s'installent, d'entreprises nationales. Et puis aussi, malthusianisme des patrons locaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de partager une main-d'œuvre qualifiée qu'ils jugent insuffisante. Bon. Alors, il y a encore une autre raison, mais là, qui est à une autre échelle, c'est que, voilà, c'est le début du marché commun, et que, en fait, l'axe de développement de l'économie française s'est déplacé vers le nord et l'est. Et que l'Ouest apparaît comme une région de plus en plus périphérique, éloignée des grands centres de décision, éloignée des grands marchés, et avec des temps de transport qui sont très longs, et donc très coûteux à l'époque. Voilà. En tous les cas, l'emploi commence à poser problème. Donc il y a cette communauté d'intérêts autour de l'emploi. Il y a un autre intérêt commun, c'est l'amélioration du niveau de vie, l'amélioration des salaires, l'amélioration des revenus. Et là encore, dans le tract de la FDSEA, il est précisé que le revenu des agriculteurs progresse moins vite que celui des autres Français. Une réalité. Et le monde agricole, en Loire-Atlantique, mais là encore dans tout l'Est breton, se sent exclu de la société de consommation. Il y a une idée d'exclusion, une véritable idée d'exclusion de la société de consommation. Et c'est un sentiment que l'on retrouve aussi chez de nombreux ouvriers, dont les salaires stagnent au début des années 60. Là, il y a le plan de stabilisation de Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque est ministre de l'économie. Et puis, il y a également des salaires qui restent très largement inférieurs, certains considèrent 30 à 40 % à ceux de la région parisienne. Donc il y a un peu ce sentiment commun là d'un niveau de vie, d'un salaire, de revenus qui sont insuffisants. Et en décembre 61, le Paysan Nantais fait tout un article intitulé « Le niveau des agriculteurs est-il équivalent à celui des familles ouvrières ?» où il y a toute une étude pour comparer à la fois les budgets familiaux, ouvriers et paysans. Et en fait, la conclusion, elle est que chacun a ses difficultés et que chacun, même si ce n'est pas les mêmes difficultés, a du mal à terminer le mois. Et donc, l'idée, là, c'est de bien montrer qu'il ne s'agit pas d'envier le voisin, ouvrier ou paysan, mais plutôt d'être solidaire, et que c'est la solidarité entre les deux qui pourra amener une amélioration. Cet article a eu, à ce moment-là, un impact, on peut dire, assez important. La communauté d'intérêt, c'est aussi un objectif commun, voilà, donc communauté d'intérêt, à la fois donc l'emploi et l'amélioration du niveau de vie, et à partir de là, un objectif commun. Et l'objectif commun, ça va être le développement économique du département. Développement économique du département, pourquoi ? Parce que l'implantation de nouvelles usines va, avec des salaires décents, va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui va permettre d'assurer des débouchés pour l'agriculture et donc d'entraîner le développement de l'agriculture. Bon, c'est un schéma un peu keynésien, mais c'est ce que croient fondamentalement les responsables syndicaux. Et donc ce développement de l'économie du département, finalement, c'est cet objectif commun qu'ont à la fois les responsables syndicaux paysans et ouvriers. Alors, ne faisons pas de nos responsables syndicaux paysans des révolutionnaires. Ils ne sont pas du tout dans la logique d'une critique du capitalisme allant vers une révolution sociale. Absolument pas. Ce sera pour plus tard et pour certains d'entre eux. Mais ils sont dans cette logique de vouloir le développement de la région, de lutter pour l'emploi et l'amélioration du niveau de vie, parce qu'ils y voient un objectif commun et une manière pour pouvoir justement améliorer leur situation. Alors, ça va se concrétiser, en fait, par lutte pour l'emploi, lutte pour l'amélioration des conditions de vie, par un certain nombre de luttes, de conflits. Alors, le premier... Tout ça, ça se situe entre fin 63 et début 64. Hein, c'est très ramassé, chronologiquement parlant. Et ça va être tout d'abord le conflit d'Issé. Alors Issé, c'est dans le nord du département, pas très loin de Châteaubriant. Et cela concerne l'usine Atlas. Alors l'usine Atlas est une ancienne tannerie qui, dans les années 50, se recycle dans la fabrication de plastique. Alors les salaires sont faibles, les conditions de travail sont très dures, et les syndicats... on peut dire, peu apprécié. Et il y a là 470 ouvriers, ouvrières, essentiellement des hommes, et ce sont souvent soit d'anciens agriculteurs, soit, ils viennent tous un peu des communes environnantes, et s'ils ne sont pas d'anciens agriculteurs, leurs parents, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs sont agriculteurs. Et la plupart d'entre eux font les 3-8, ce qu'ils font souvent aussi, qu'ils aident leurs voisins, ou leurs parents pour les travaux des champs. Donc finalement, tout le monde se connaît un petit peu. On n'est pas dans deux mondes totalement étanches. Tout le monde se connaît un petit peu. Alors le conflit commence le 17 octobre 1963. Les salariés de l'entreprise débraient une heure pour tenir un meeting hors de l'usine. Revendication, augmentation des salaires de 6% et quatrième semaine de congés payés. La réponse patronale est rapide, lockout, qui va durer 48 heures. Et début d'un bras de fer. Et c'est à ce moment-là que les responsables du syndicat agricole d'Issé, donc local, on est au niveau local, prennent l'initiative de se joindre à la manifestation qui se déroule le 25 octobre. Et voilà la manifestation en question, à Issé, hein, et on le voit, hein, les tracteurs, il y en a une douzaine, bon, vous voyez ici deux ou trois, les tracteurs au début du cortège, et derrière, on a à peu près 400-500 personnes, essentiellement des ouvriers, mais aussi des agriculteurs qui soutiennent le mouvement. Le meeting donc se tient à ICMM, et les responsables syndicaux prennent la parole. Je vais juste citer un petit peu ce que disent ces responsables syndicaux. Alors Roger Rousselot, qui est le secrétaire du UDCGT, dit les choses suivantes. Autrefois, il y avait une barrière entre cultivateurs et ouvriers. Aujourd'hui, elle tombe et ce sera le symbole de l'amitié de l'ouvrier et du paysan. Si l'on augmente le pouvoir d'achat de l'ouvrier, les produits des agriculteurs se vendront mieux, car l'ouvrier est l'un des meilleurs clients par le nombre. On trouve toujours un peu cette idée-là. Alors René Philippot, qui est le président du CDJA, répond. Aujourd'hui, nous sommes unis dans des intérêts communs. Jeudi, votre patron nous a téléphoné en nous disant « Qu'est-ce que vous venez faire dans cette grève ?» Nous lui avons répondu que c'était notre droit, sinon notre devoir, d'être solidaires à cette manifestation. Car la question ouvrière nous intéresse au plus haut point. Si vous pouvez nous acheter nos marchandises, nous pourrons acheter vos machines et vos produits. Il a donc bien montré cette communauté d'intérêts là. C'est fondamental et les responsables syndicaux insistent bien là-dessus. Alors, il y aura d'autres manifestations, notamment une marche sur Châteaubriant le 31 octobre, qui, elle, va rassembler 1300 personnes. Il y a les 400 ouvriers. Alors, il y avait le travail avait repris, il y avait 60 à 70 personnes qui continuaient de travailler, et autrement, il y a à peu près 400 ouvriers, et puis autrement, tous les paysans, enfin un certain nombre de paysans en tous les cas, des communes environnantes qui se joignent et qui marchent comme ça sur Châteaubriant. Et il y a un grand meeting sur la place des terrasses, la grande place de Châteaubriant. Et là encore, prise de parole. Médard Lebeau, donc permanent FDSEA, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Nos meilleurs consommateurs sont les ouvriers. La chance de cette région agricole est précisément dans un développement harmonieux par l'implantation d'usines qui paient un salaire décent et garantissent la sécurité de l'emploi. L'union des travailleurs des villes et des champs est le seul moyen d'ébranler la citadelle de l'argent et du profit. Ébranler la citadelle de l'argent et du profit. Alors, vous voyez, il y a une petite critique là du capitalisme, hein, une forme d'anticapitalisme qui apparaît, qu'on n'avait pas vu avant. Alors bon, le mouvement se terminera le 6 novembre, hein, durée 3 semaines, au bout du compte une semi-victoire, semi-défaite, 4e semaine de congés payés, mais par contre, augmentation de salaire non pas de 6%, mais de 4%. Alors, semi-victoire, semi-défaite, mais en tous les cas, c'est important dans le cadre de notre travail, là, c'est que ça nous montre bien qu'il y a là une solidarité dans un contexte local. Alors, contrairement à juin 61, là, c'est une solidarité des paysans avec les ouvriers, donc on est dans la situation inverse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça se passe dans une région rurale qui est globalement peu frondeuse, qui est réputée en tous les cas peu frondeuse, avec une main-d'œuvre qui est réputée plutôt de scie. Alors, le point d'orgue, c'est évidemment ce qui se passe début 64. Le contexte, c'est la crise de l'emploi à Saint-Nazaire. C'est ça le contexte. Début 64, il n'y a plus aucune commande pour les chantiers de l'Atlantique. Plus aucune commande à Saint-Nazaire. Et les rumeurs, licenciements, mise à la retraite, départ à la retraite, il y a les rumeurs. Pas de chiffres, mais il y a les rumeurs. Par contre, dès fin décembre, début janvier, il y a des entreprises sous-traitantes qui déjà ferment leurs portes. Alors bon, ceux qui connaissent Saint-Nazaire, hein, il y a les tôleries Thiriet, les établissements Lange, Péco-Alaire, en tous les cas, à chaque fois c'est 30, 40, 50 personnes, mais ça commence à faire du monde. Et surtout, le 8 janvier, c'est l'annonce de la fermeture des fonderies de Saint-Nazaire. Et là, c'est pas 40, c'est pas 50, c'est 250. 250 personnes qui se retrouvent un mois plus tard, fermeture prévue pour le 8 février. Il y a vraiment là une dégradation brutale de l'activité économique à Saint-Nazaire. Et c'est ce qui va entraîner une première journée mémorable, la manifestation du 22 janvier à Saint-Nazaire. Alors cette manifestation se fait à l'appel du comité de défense de l'emploi nazérien. Donc là, c'est un tract, c'est un recto verso. Alors ce comité de défense, là, c'est un consensus, hein, très 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 large, puisqu'on y retrouve syndicats ouvriers, enseignants, paysans, syndicats de commerçants, organisations politiques, ça va du PC au MRP, bon. Quand même, hein, il n'y a pas le parti gaulliste. Association de familles, de jeunes, ensemble des élus de la région. Là, par contre, les élus gaullistes en font partie. Donc, c'est très, très consensuel. Très, très consensuel. Et c'est ce comité qui va organiser donc cette manifestation de lutte contre le chômage et pour exiger des mesures de l'État permettant de maintenir et de développer l'activité économique de la région nazérienne. Ce tract, il est intéressant parce qu'il dramatise aussi un petit peu la situation. Il fait référence aux années les plus noires de l'économie nazérienne avec la fameuse marche sur Nantes de juin 1933. Donc là, il y a la volonté aussi un peu de dramatiser et de montrer que la situation est en train de devenir véritablement catastrophique. Alors, cette manifestation va être un véritable succès. 30 000 personnes à Saint-Nazaire, c'est énorme. Et avec donc un défilé sur l'avenue de la République. Vous avez ici ce défilé au moment où écoles, magasins, c'est une ville morte Saint-Nazaire, hein, la plupart des administrations sont fermées. Et donc en tête du cortège, on retrouve les représentants du comité, de ce fameux comité de défense de l'emploi, et notamment eh bien, les différents élus. Alors petite anecdote, au premier rang, je me déplace, vous avez ici, vous le reconnaîtrez peut-être, François Blanchot. Alors, il était déjà là à l'époque de la marche de la faim de 1933. Il est toujours là à celle de 1964. Il était député en 1933. Il est encore député en 1964. Voilà, petite anecdote. Vous remarquerez également que derrière donc, les représentants et les élus, vous avez deux tracteurs et derrière, évidemment, les ouvriers des différentes métallurgistes, etc. Voilà. Il y a évidemment également les paysans qui sont là. Combien, c'est difficile à dire, certainement autour de 3000. Alors le problème pour la FDSEA, c'était la date. On est le 22 janvier. Or, le 24 janvier, il y avait une action nationale pilotée par la FDSEA avec des manifestations dans toute la France. Là, on est un jeudi, le 24, c'était un samedi. Et cette manifestation départementale, là, se déroulait à Nantes. Et donc, il est décidé par l'UD de la FDSEA que les paysans de la région nazairienne iraient à la manifestation du 22, mais n'iraient pas à celle du 24. Mais quand même, pour bien montrer qu'ils sont là et qu'ils ont des revendications, ils organisent un premier rassemblement à 14h, place de la Gare, et après, eh bien, ils rejoignent le cortège à 15h. Et lors de cette manifestation, ils sont entre 2 et 3 000, avec tous les, il y a 7 cantons du nord-ouest du département, il y a encore des interventions là. C'est intéressant de citer celle de Daniel Bijard, qui était le président du syndicat agricole de Saint-Nazaire. Autrefois, entre nous, il y avait de l'hostilité. Il parle avec des ouvriers et des paysans. Désormais, nous avons compris que nos problèmes sont les mêmes. Nous sommes venus dire avec vous que nous ne voulons pas mourir. Que nous ne voulons pas mourir. Avec les métallos, les paysans lancent un cri d'alarme. Très, très alarmiste, tout ça, très catastrophiste. Et il ajoute, sur toujours un petit peu cette veine anticapitaliste, c'est aux capitaux et à ceux qui les détiennent de venir là où se trouvent les travailleurs et non aux travailleurs de s'en aller à la recherche des usines. On est bien dans la continuité d'Issée quelque part. C'est toujours donc une solidarité là des paysans avec les ouvriers pour l'emploi des ouvriers. On reste dans un contexte local. Là, c'était la région de Châteaubriant. Là, c'est la région de Saint-Nazaire. Ça va changer un petit peu avec la manifestation du 19 février. Entre-temps, fin janvier, la direction des chantiers a annoncé officiellement la réduction du personnel. 400 salariés de 62 ans, pré-retraite, 250 licenciements. La presse avait calculé là, depuis 2 ou 3 mois le nombre total. Dans tout le département, essentiellement la région nazairienne, on arrivait à peu près à 1500 personnes licenciées en quelques mois. C'est à la fois brutal et effectivement dramatique. Et donc, le 3 février, eh bien, les responsables départementaux des syndicats ouvriers, agricoles, enseignants et étudiants, alors là, c'est plus le comité, ce sont les syndicats qui reprennent la main, surtout à l'instigation des syndicats ouvriers et paysans, mais surtout les syndicats ouvriers, on décide effectivement d'organiser une grande manifestation départementale à Nantes. L'appel à manifester est purement syndical. C'est plus le comité, là. C'est syndical. Ils veulent reprendre la main. Et puis aussi, il y a une volonté de ne pas cantonner le problème de l'emploi à la seule région nazairienne. Les nazariens auraient bien aimé que cette manifestation se déroule aussi à Saint-Nazaire. Mais il y a la volonté des UD que ça se déroule à Nantes et ne pas en faire un problème local, mais un véritable problème départemental. Ça pose un certain nombre de réticences de la part des paysans, de la base. L'UD avait, la FDSEA, avait diligenté une enquête auprès des syndicats locaux concernant la participation à cette manifestation. Résultat mitigé. 49 syndicats sont pour, 21 contre et 37 sans opinion. Ça nous fait une majorité absolue. Pas vraiment. Une majorité très relative. On sait ce que c'est aujourd'hui, une majorité relative. On en parle beaucoup. Mais là, ça fait moins de la moitié des syndicats locaux. Et ça montre bien aussi un peu la différence entre d'un côté des responsables syndicaux qui sont dans ce progressisme-là, et puis une base qui reste souvent très conservatrice. Bon. Alors pourquoi ? Pour eux, c'est quand même une manifestation alors qui n'est plus dans un cadre local avec des gens qu'on connaît, mais voilà, qui est dans un niveau départemental, qui est quand même à l'instigation des syndicats ouvriers, donc... qui est jugé un peu politique. Bon, Nantes, pour beaucoup, c'est loin. Et en plus, il y a l'agenda particulier des paysans, puisqu'au même moment, la FNSEA, au niveau national, a entamé une grève avec la livraison de viande. Donc ça fait beaucoup, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée, finalement, que cette manifestation prend un tournant politique qui ne plaît pas beaucoup à un certain nombre de paysans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'UDFDSEA, son conseil d'administration, va envoyer un courrier à tous les présidents de syndicats locaux pour qu'ils mobilisent massivement. Parce que l'UD, en tant que tel, les conseils d'administration, les responsables syndicaux, eux, tiennent fortement à ce que cette manifestation réussisse. Pour eux, c'est fondamental. Alors, eh bien, effectivement, par ailleurs, la manifestation va être extrêmement bien préparée. Extrêmement bien préparée. Il y a 200 000 tracts qui sont édités, 100 000 macarons rouges qui sont imprimés pour être vendus afin de financer la manifestation, des bandeaux en nombre très important, et puis de Saint-Nazaire, plus d'une centaine de cars, 500 voitures qui seront affrétées. Il y aura 10 000 Nazériens à Nantes le 19 février. Et puis, l'appel à la manifestation syndicale est extrêmement bien relayé par la presse. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, vous aurez certainement dû le remarquer. Elle est très très bien relayée par la presse locale, qui en fait un large écho, alors rappelle tous les jours la situation critique de l'emploi dans le département, interviewe des dirigeants syndicaux, insiste sur l'unanimité créée autour de l'appel à manifester, et tous les jours vous avez toutes les organisations, les associations qui s'associent au mouvement, et elle donne le plus grand nombre de précisions sur les actions de la journée. Et même Ouest-France va jusqu'à reproduire un plan du parcours de la manifestation. Aurait-il fait ça l'année dernière pour le mouvement des retraites? Je ne sais pas. Cette grande bienveillance de la presse locale a participé au succès de la manifestation. C'est une évidence. Ouest-France prédit 40 000 personnes. Ils vont être quasiment le double. Et voilà, on y arrive. À ce jour, donc 19 février, rassemblement au Champ de Mars, à Nantes, à 15h, eh bien, il y a effectivement 70 000 personnes, 10 000 Nazériens, ce qu'on appelle une véritable marée humaine, avec sur la tribune cette grande banderole, la Loire-Atlantique veut vivre, les travailleurs de toute profession l'exigent. Là encore, c'est intéressant de voir la presse locale, qui fait non seulement sa une, mais 3-4 pages hein, sur l'événement le lendemain, bien entendu. Voilà Ouest-France, 70 000 manifestants hier à Nantes. L'éclair, imposante et digne manifestation de plus de 70 000 travailleurs à Nantes. Et l'éclair d'ailleurs, qui, c'est quand même très rare de le voir, eh bien, c'est une page entière avec ce titre, l'indiscutable témoignage. Alors, évidemment, c'est difficile de montrer cette marée humaine, 70 000 personnes, on ne peut pas montrer ça sur une photo, mais il y a cette volonté-là. Ouest-France, de son côté, insiste sur la grande diversité sociale, sociologique de la manifestation. Bleu de travail, veste de cuir, complet veston. Bleu de travail, les ouvriers, veste de cuir, employés, enseignants. Complet veston, c'est la version de Christophe, plutôt les paysans qui allaient aux manifestations habillés.
Voilà. En dimanche, quand
même. En dimanche. Et on retrouve ça, unanimité, solidarité. Alors la solidarité, elle existe vraiment, évidemment, puisque là encore, les cafés, les cinémas, tout est fermé. Grève des transports pendant 24 heures. Nantes est une véritable ville morte. Et en plus... 70 000 personnes, ils ont du courage parce qu'il faisait un temps de chien. Il pleuvait, il faisait un temps de chien. Et là encore, la presse, il y a un côté lyrique, un côté poignant, un côté alarmiste. Sous un ciel aussi sombre que l'avenir de notre région, des dizaines de milliers de salariés ont sur des kilomètres. Ouais, parce qu'en fait, quand certains sont arrivés, il y en avait qui n'étaient pas encore partis. Hein. Bon. En plus, on avait été obligé de raccourcir le trajet. Parce qu'il fallait que les cars de Saint-Nazaire repartent. Et bon, bah, il n'y avait pas le choix, il fallait raccourcir. Donc on n'a pas fait tout le trajet. Bon, bref. Clamer leur crainte de voir le département se transformer en cimetière. Donc on est vraiment là sur le champ lexical de la mort, hein, le cimetière. Et donc ça, c'est l'éclair. Ouest-France reprend un extrait du discours de Gilbert Declerc, de la CFTC, futur CFDT, un département s'est levé parce que des machines se sont tues. Évidemment, dans cette manifestation, combien y avait-il de paysans? Difficile de le dire, 3000, 4000, c'est en tous les cas ce qu'espérait la FDSEA, et c'est certainement cela. Et vous avez notamment, évidemment, des grandes banderoles « Ouvriers et paysans unis contre la politique gouvernementale ». Là encore, lors des prises de parole, on peut écouter rapidement Raphaël Rialan, au nom de la FDSEA, et qui justifie la présence des paysans à la manifestation. « Nous serons présents à toutes les fois qu'il le faudra pour nous créer des emplois, se donner un sens à l'exode rural, c'est aussi freiner la dépopulation ». Et un peu comme Médard Lebeau, avec ce côté un petit peu anticapitaliste, il dit, il conclut, « Nos prix sont injustement bloqués depuis 1958, on serait tenté de s'attaquer au circuit de distribution, n'est-ce pas plutôt le système économique aux mains des puissances financières qui est mauvais ? Les prix sont plus fixés en fonction du profit que des besoins des hommes. » Alors, bon, Raphaël Rialan, c'est pas un révolutionnaire. Hein. Ensuite, il ira au CDS de Jean-Luc Canuet, bon. Ce n'est pas des marxistes convaincus, Lyon. Mais son discours montre bien quand même l'apparition de ces thèmes anticapitalistes qui seront ensuite, évidemment, approfondis par Bernard Lambert, par exemple. Mais ils apparaissent à ce moment-là. Alors, dans les jours qui suivent, la presse... Alors, voilà, hein, pardon, oui, je pensais l'avoir mise. Voilà, donc... Alors, par contre, la photo n'est pas du 19 février, mais de la manifestation au Champ de Mars. Alors, c'est au même lieu, le Champ de Mars, mais c'était celle du 24 janvier... qui était une manifestation purement paysanne. Voilà. Voilà. N'est-ce pas le système économique aux mains des puissances financières qui est mauvais ? Les prix sont plus fixés en fonction du profit que des besoins des hommes. Dans les jours qui suivent, la presse syndicale s'empare aussi, évidemment, et relate l'événement. Alors, juste rapidement, la Voix des travailleurs, qui est l'organe de la CFTC, numéro de mars, alors, et le terme. On ne parle pas d'exode, on ne parle pas de dépopulation, on parle de... Déportation. Le terme, quand même, ça rappelle quelque chose qui s'est passé, il me semble, 20 ans plus tôt. Déportation, le terme est fort. Ben oui, parce que c'était ça. Apparemment, il n'y a plus de travail dans le département, il n'y en aura pas à Rennes, il n'y en aura pas à Brest. Ben voilà, il faut aller dans la région parisienne, il faut aller dans le sud, dans l'est, etc. De son côté, le paysan nantais, donc... rappel donc pour que vive la Loire-Atlantique, 70 000 travailleurs étaient rassemblés. Et il y a tout un long article. Alors je vais vous lire juste la fin parce que c'est intéressant. Face au pouvoir fort et policier que nous connaissons, il n'y a que deux façons d'être écouté et considéré. Ou bien par l'argent, mais nous ne l'avons pas. Ou bien par l'organisation, la puissance syndicale et l'union de tous les travailleurs. Notre choix est fait et l'unité des travailleurs nous paraît de plus en plus nécessaire. Elle est positive à deux niveaux, au niveau de l'élaboration des programmes socio-économiques pour une participation active dans les comités d'expansion économique, et surtout au niveau de la pression indispensable sur le pouvoir économique et politique pour faire entendre et aboutir nos justes revendications. La manifestation du 19 février allait dans ce sens et elle fera école car les travailleurs d'autres régions nous regardent. Là, on montre bien le fait que la Loire-Atlantique, que cette manifestation, c'est un moment très fort. Ces prises de position font penser à ce moment-là, notamment aux centrales ouvrières, qu'on va pouvoir aller plus loin. Ne pas en rester à une communauté d'intérêts, mais avoir des objectifs plus importants que le développement économique, des objectifs qui pourraient être politiques. Et c'est là que, finalement, les choses vont être un peu plus compliquées que cela. Mais en tous les cas, la manifestation du 9 février apparaît bien comme le point d'orgue de 10 années de rapprochement entre ouvriers et paysans. Conclusion.
Donc ce 19 février 64 hein, a marqué l'histoire sociale du département par la masse populaire descendue dans la rue, mais aussi par sa capacité à illustrer la convergence d'intérêts entre ouvriers et paysans dans la France des 30 glorieuses qui ne l'était pas pour tout le monde. Comme nous l'avons indiqué... Il me semble, à moins que tu l'aies oublié, cher Yannick, sur les 70 000 personnes descendues dans la rue, moins de 5 000 étaient des agriculteurs, soit un pourcentage inférieur à 5 %. Alors, on pourrait juger cette mobilisation modeste. Mais ce serait oublié qu'en Loire-Atlantique, au mi-temps des années 60, on ne dénombrait que 22 000 paysans à temps plein. Autrement dit, c'est quand même près du quart des agriculteurs du département de Loire-Atlantique qui ont fait le déplacement, qui ont rallié Nantes. 25 % quand même. Ça en dit long sur la capacité d'encadrement et de mobilisation de la FDSEA. Cependant, et c'est un peu notre surprise, c'est que cette démonstration de force n'a pas connu le même destin mémoriel que la manifestation du 24 mai 68, marquée par la présence très concrète des paysans de la ville au volant de leurs tracteurs ou encore juchés sur leurs remorque. Date importante donc, bien que négligée, comme l'est d'ailleurs la date du 22 mai 64, parce que ce 22 mai 64, un homme va prendre la direction de la FDSEA de Loire-Atlantique. Il se nomme Bernard Lambert, c'est un tribun de premier ordre, c'est un meneur d'hommes, il est intelligent, il est audacieux. Ancien député apparenté démocrate chrétien, entre 58 et 62, il est en train de se radicaliser politiquement, puisqu'en 66, deux ans plus tard, il va donc adhérer au Parti Socialiste Unifié. Avec son compère Médard Lebeau, il fut un acteur du rapprochement entre organisations ouvrières et paysannes. Il incarne en fait la mutation du syndicalisme de Loire-Atlantique que symbolise en fait le remplacement des notables conservateurs par une jeune génération avide de changement. Un remplacement qui ne s'est pas fait brutalement, mais, je cite Médard Lebeau, à petite dose, au fur et à mesure que les postes devenaient vacants, sans provoquer trop de remous. Et en fait, ils ont cette stratégie parce qu'ils jouent sur une idée simple et assez consensuelle, il faut faire la place aux jeunes, parce que les jeunes paysans représentent l'avenir. Voilà. Donc que les anciens leur fassent un peu de place. Et cette stratégie d'entrisme porte ses fruits dès le milieu des années 60. Le syndicalisme agricole de Loire-Atlantique, du moins dans ses instances et dans ses groupes jeunes, vire lentement à gauche, rompt avec le corporatisme, rompt avec l'entre-soi paysan, développe des relations fortes avec le syndicalisme ouvrier et se fera bientôt le porte-parole des laissés pour compte de la modernisation agricole, ces petits paysans qui crèvent de ne pouvoir monter dans le train du progrès et ceux qui s'accrochent au wagon de queue, étranglés par les dettes et soumis au groupe agro-industriel. Mais Bernard Lambert, figure centrale de la gauche paysanne par son charisme et par sa pensée, hein, il est l'auteur des Paysans dans la lutte des classes, et Médard Lebeau, son bras droit, nous font oublier qu'un homme a sans doute joué un rôle non négligeable dans le développement des relations intersyndicales. Cet homme, on l'a vu plusieurs fois, c'est Raphaël Rialan. Pour ce paysan démocrate chrétien, le monde ouvrier n'était pas une terre inconnue car avant 1945 et avant qu'il se fasse paysan, il était jeune ouvrier serrurier à Nantes et adhérent à la jeunesse ouvrière chrétienne, adhérent à la CFTC, et il a raconté qu'il a été particulièrement marqué par quelques figures charismatiques du syndicat chrétien comme Gilbert Declerc et Nestor Rombaud, le nazérien. À n'en pas douter, donc, cette trajectoire biographique pas si fréquente à l'époque, a dû faciliter le travail relationnel. Alors cette année 64 est donc importante pour le syndicalisme agricole parce qu'elle voit d'une certaine façon des paysans au cœur ancré à gauche s'emparer des leviers de commande, oser défier la toute-puissante FNSEA, mais aussi, évidemment, hein, semer le trouble dans les têtes paysannes de Loire-Atlantique. Car il faut le rappeler avec force, l'Alliance ouvrier-paysan est avant tout à cette période-là une affaire d'état-major, une affaire de direction syndicale. Elle ne doit rien à une poussée de la base. Yannick l'a souligné brillamment, évidemment, de nombreux syndicats paysans n'étaient pas favorables à cette manifestation unitaire. Et même si les archives ne nous indiquent pas si le désaccord est idéologique ou pas, on peut imaginer qu'une partie de la masse paysanne n'a guère goûté cette stratégie d'ouverture vers le monde ouvrier et cette stratégie de critique du syndicalisme majoritaire. Le syndicalisme donc agricole s'ancre à gauche dans le département et dans l'Ouest au milieu des années 60. Mais cette gauche déjà plurielle ne tardera pas à se déchirer entre une aile radicale attirée par le gauchisme et portée par le souffle de mai 68 et qui ne nourrit plus guère d'illusions sur sa capacité à transformer de l'intérieur la FNSEA, et une autre tendance plus modérée qui va prendre la tête d'ailleurs de la Fédération départementale qui, elle, considère qu'il faut continuer le combat, et d'ailleurs elle va le continuer le combat jusqu'en 78, date à laquelle la FNSEA tout simplement va l'exclure de ses rangs. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions.
La conclusion est quand même